Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au/french.
SBS, a world of difference. You're with SBS French, on mobile, online and on radio.
Vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en ligne et à la radio.
Bonjour et bienvenue à cette édition du programme en français sur les antennes de la radio SBS. Bertrand Tunganamé pour vous accompagner. Au programme, comme tous les jeudis, on va décrypter l'économie australienne avec Nicolas Perpich. On va également parler de vos options si jamais vous arrivez de vous retrouver en situation de séjour illégal en Australie, les risques que vous encourez, comment éviter de vous retrouver dans cette situation et que faire pour éviter que les choses ne s'aggravent si jamais vous vous retrouviez dans cette situation malgré tout. Et dans son magazine des sports, Christophe Mallet va vous présenter tout ce qu'il faut savoir sur le sport ce jeudi 15 avril. Mais sans plus tarder, l'actualité de ce jeudi. L'Association des médecins d'Australie déclare que regagner la confiance du public dans le programme de vaccination contre le Covid est une priorité. En France, lueur d'espoir sur le calendrier de réouverture du pays au moment où on approche la barre des 100 000 morts de Covid. Et un enterrement d'État pour Carla Zambati, l'icône de la mode australienne et ancienne présidente de la SBS. L'Association des médecins d'Australie, l'AMA, va rencontrer le Premier ministre Scott Morrison pour discuter de la mise en place de centres de vaccination de masse. Le président de l'AMA, le docteur Omar Khorshid, a déclaré à la chaîne Nine Network que regagner la confiance du public est une priorité.
How to get Australians confident again in this really important vaccine rollout. How we pivot the program now that we have to deal with the decision from Otago that the AstraZeneca vaccine is not preferred for those under 50. And to make sure that we get the task done of vaccinating all Australians by the end of the year.
Et aujourd'hui, le Queensland a levé des restrictions relatives au coronavirus. Les masques ne sont plus obligatoires dans les magasins et les salles de spectacle. Les visiteurs au Queensland peuvent voir leurs proches dans les hôpitaux, les prisons et les centres de soins pour personnes âgées et handicapées. Les lieux de divertissement tels que les cinémas, les théâtres et les stades peuvent désormais fonctionner à 100% de leur capacité. Le ministre de l'Éducation fédérale, Alan Tudge, a déclaré qu'un examen de la formation des enseignants contribuera à améliorer la qualité de l'apprentissage dans les écoles australiennes. L'ancienne secrétaire du département de l'Éducation, Lisa Paul, dirigera un groupe d'experts en éducation dans le cadre d'un examen de 6 mois des cours de formation initiale des enseignants. Selon M. Tudge, cet examen est essentiel pour lutter contre le déclin des normes académiques en Australie.
Teacher effectiveness in the classroom is the most important thing which determines the successful outcomes of our kids. The panel will be addressing 2 key questions. Firstly, how can we ensure that we continue to get the best and brightest going into teaching? And secondly, how do we ensure that the teacher students are best prepared so that when they walk out of their studies, they can be effective teachers in the classroom?
Le ministre Tudge espère ramener l'Australie dans le groupe des pays les plus performants en termes de performance académique d'ici 2030. Et le département fédéral des finances a admis avoir sous-payé certains membres du personnel parlementaire. Selon les services ministériels et parlementaires, il y a eu des périodes au cours des 4 dernières années où le taux payé à certains agents électoraux a été inférieur au minimum réglementaire. Près de 60 employés seraient touchés par cette situation. Et l'erreur est attribuée à une erreur d'arrondi de la paye. Dans un email envoyé au personnel et vu par SBS News, le ministère a confirmé qu'il vérifiait la paye des travailleurs actuels et anciens à qui on pourrait devoir de l'argent. Le ministre des Finances, Simon Birmingham, a déclaré que son ministère avait agi rapidement, ajoutant que tout sous-paiement était inacceptable et devrait être rectifié dès qu'il est établi. Et un nouveau rapport indique que l'Australie doit tripler ses réductions d'émissions au cours de la prochaine décennie pour protéger le pays contre les effets les plus dévastateurs du changement climatique. Le Climate Council a mis le gouvernement fédéral au défi de fixer un objectif de réduction des émissions de 75% d'ici 2030 et de zéro émission nette d'ici 2035. Selon l'auteur du rapport, le professeur Will Stephen, l'Australie est désormais bien en retard par rapport aux autres pays dans la réduction des émissions et doit faire davantage pour rattraper son retard. Selon lui, l'Australie est tout de même capable d'atteindre des objectifs plus ambitieux.
We have enormous potential with our renewable resources. So the best way to get emissions down fast is to convert your electricity system from fossil fuels to renewables. And we have some of the very best solar resource in the world, and we also have very good wind resource. Now, when you put those two together, there is no other country in the OECD group anyway that can come close.
Et selon ce rapport du Climate Council, l'Australie fait déjà face à des conséquences désastreuses du réchauffement climatique avec le feu de forêt, des inondations et des canicules de plus en plus dévastatrices. Et le Parti travailliste australien a déclaré que s'il gagne les prochaines élections, il va allouer 80 millions de dollars sur une période de 4 ans pour des réformes visant à réduire l'incarcération des aborigènes et le nombre des décès des aborigènes en détention. La porte-parole du Parti travailliste pour les affaires aborigènes, Linda Bonney, a déclaré qu'un leadership fédéral était nécessaire pour s'attaquer aux causes profondes de la surreprésentation des aborigènes en milieu carcéral. Les groupes de défense et militants des droits de l'homme estiment qu'on ne fait pas assez pour réduire le nombre des décès des aborigènes en détention. On signale qu'il y a eu plus de 470 décès en détention depuis le 15 avril 1991, date de publication du rapport de la Commission royale sur les décès des aborigènes en détention. Un peu moins d'un tiers des prisonniers du pays sont des aborigènes, alors qu'ils ne représentent que 3% de la population australienne, et le taux d'incarcération des mineurs aborigènes est encore plus élevé. Helen Pearson, directrice de Human Rights Watch pour l'Australie, a déclaré que beaucoup doit être fait pour endiguer cette situation.
But in particular, we would like to see the Australian government raise the age of criminal responsibility. It is currently set at 10 in most states, and it should be 14 at an absolute minimum. We also want to see imprisonment of Aboriginal people as a last resort, and we want to see an end to the use of solitary confinement, particularly for people with mental health conditions.
Ce n'est qu'une question de jours, voire d'heures, et le nombre des décès par COVID-19 en France devrait atteindre, voire dépasser la barre de 100 000 morts. Et comme nous l'explique Cédric de Oliveira de RFI, le nombre aurait même été franchi si on se réfère à certaines méthodes de comptage.
Le décompte de Santé publique France ne serait pas fiable si l'on en croit les données récoltées par le CEPIDC, le Centre d'épidémiologie sur les causes médicales de décès de l'INSERM. Jean-Marie Robin est démographe et directeur de recherche à l'Institut.
C'est le centre qui reçoit les certificats des décès qui sont signés par les médecins, où il y a les causes de décès qui sont mentionnées dessus. Donc Santé publique France repère finalement 85% des décès. Il manquerait environ 17 000 décès. On serait aujourd'hui à 117 000 décès au lieu d'être à 100 000.
Des données qui doivent encore être affinées, mais un tel écart s'explique par la méthode de surveillance de Santé publique France qui s'appuie essentiellement sur les décès dans les hôpitaux et les EHPAD.
Le gros manque, ce sont les décès à domicile. La deuxième raison, c'est que Santé publique France ne couvre pas tous les secteurs de l'hôpital, surtout les unités de soins de longue durée où finalement finissent les gens qui ne peuvent pas ressortir de l'hôpital. Et c'est 30 000 lits en France. Ce secteur-là n'est absolument pas couvert par aucun des systèmes d'information.
Pour améliorer la réactivité de la surveillance sanitaire, le démographe préconise la généralisation d'un certificat de décès électronique. Pour l'instant, seuls 25 à 30% de ces documents sont envoyés par Internet.
Et toujours en France, malgré des chiffres de décès alarmants, il y aurait quand même une lueur d'espoir à l'horizon. En effet, ce jeudi, une partie du gouvernement s'est réunie à Paris et à l'ordre du jour, le calendrier de réouverture promis pour la mi-mai par le chef de l'État. Explication, Anthony Latier pour RFI.
Une réunion que le président tient à rendre publique pour essayer à nouveau de donner un horizon aux Français. Le chef de l'État devrait d'ailleurs lui-même détailler le calendrier retenu à la télévision dans les prochaines semaines. Mais sa promesse d'une réouverture progressive à la mi-mai est-elle tenable? Le ministre de l'Économie se montre très prudent, alors qu'un conseiller du ministre de la Santé reconnaît que l'on traverse la période la plus dure à lire depuis un an en termes d'évolution de l'épidémie. Plus de vaccins, moins de tests, des hausses de contamination par ici, des baisses par là, la troisième vague n'est pas encore derrière, prévient le porte-parole du gouvernement. Qu'importe, les ministres sont sommés de rendre la promesse présidentielle réalisable. Notre objectif, c'est de ne pas créer de la déception chez les Français, explique un conseiller ministériel. On peut donc commencer par des réouvertures symboliques, comme les terrasses ou les musées. Une façon de dire que l'horizon ne devrait pas se dégager pour tout le monde dans un mois.
Le gouvernement français s'est prononcé en faveur de l'utilisation du vaccin Johnson & Johnson contre le coronavirus. Le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, a déclaré que le vaccin sera administré de la même manière que le vaccin AstraZeneca aux personnes de plus de 55 ans.
Nous avons reçu la première livraison de vaccin Janssen, c'est-à-dire 200 000 doses qui sont arrivées en début de semaine sur notre territoire et qui sont en train d'être acheminées auprès de la médecine de ville et des officines de pharmacie. Je crois qu'il aura été entièrement acheminé jeudi ou vendredi. Ce vaccin a bénéficié des autorisations de la part des agences de santé européennes et françaises. Et donc, à ce stade, ce vaccin va évidemment être distribué et administré dans les mêmes conditions que ce qui est prévu aujourd'hui pour le vaccin AstraZeneca, c'est-à-dire pour les personnes âgées de plus de 55 ans.
Entre-temps, les agences de santé des États-Unis ont quant à elles recommandé de suspendre l'utilisation de ce vaccin pendant qu'on examine des liens possibles avec des caillots sanguins. Le directeur du CDC, le Center for Disease Control, le docteur Rochelle Walensky, déclare que malgré cette suspension, le risque du vaccin Johnson & Johnson reste faible.
For people who have received the vaccine more than a month ago, the risk of a blood clot is exceptionally low. For people who received the vaccine meaning within the last few weeks, they should be aware of their symptoms and immediately seek medical assistance with any symptoms of concern. But also, I want to reiterate to this group, even in this group, these events are extremely rare.
Et les responsables de Johnson & Johnson affirment qu'ils vont retarder le déploiement de leur vaccin en Europe pendant que les régulateurs examinent les cas de caillots sanguins survenus chez 4 personnes ayant été injectées de ce vaccin aux États-Unis. On rappelle que la France a reçu un premier lot de 200 000 doses du vaccin Johnson & Johnson en début de semaine. Et on souligne que malgré les coagulations sanguines qui ont été observées sur le vaccin AstraZeneca et celui de Johnson & Johnson, les autorités sanitaires maintiennent que les avantages de la vaccination l'emportent toujours sur les risques. Et le Danemark est devenu le premier pays à annoncer qu'il va cesser définitivement d'utiliser le vaccin d'AstraZeneca en raison d'un lien potentiel avec une forme rare mais grave de caillot sanguin. La décision repoussera la conclusion prévue du programme de vaccination du Danemark au début du mois d'août. Le calendrier initial prévoyait de clôturer cette campagne le 25 juillet prochain. Cependant, il faut souligner que ce nouveau calendrier est basé sur l'administration du vaccin Johnson & Johnson, dont le déploiement en Europe a été retardé en raison des problèmes de coagulation similaires. Le directeur danois de la santé, Søren Bostrøm, explique la décision des autorités danoises.
We suspended the use of AstraZeneca in Denmark on the 11th of March out of an abundance of caution because of these rare side effects. In the month that has passed, we have intensively investigated this signal with national and international experts. We are now convinced of the plausibility and the causality of this rare syndrome. It is not because we believe it's a bad vaccine. So our decision is contextual and specific to the specific situation in Denmark.
Et les représentants du gouvernement afghan disent qu'ils respectent la décision des États-Unis de retirer leurs troupes du pays d'ici le mois de septembre. Le docteur Abdullah Abdullah, président du Haut Conseil afghan de la paix pour la réconciliation nationale, a déclaré que le retrait des troupes américaines ne devrait pas ouvrir un autre chapitre de la guerre en Afghanistan.
If there is still the thinking that with the withdrawal of the foreign forces, the issue will be resolved through conflict, this would mean the continuation of fighting, and no one wants it. So neither of the sides should misunderstand it. With or without the presence of foreign forces, the solution is to move forward toward peace, a peace which is acceptable for all people of Afghanistan.
Le retrait des troupes américaines mettra un terme définitif à deux décennies de guerre qui ont tué et blessé des milliers de personnes et coûté jusqu'à 2 trilliards de dollars, bon, en anglais, 2 billion dollars. Et le directeur de la CIA, William Burns, a déclaré au Congrès américain qu'avec ce retrait, les États-Unis perdraient inévitablement un certain pouvoir de renseignement contre les menaces extrémistes opérant en dehors de l'Afghanistan. Mais il a ajouté que les pertes seraient gérables. Les funérailles de la créatrice de mode et icône australienne Carla Zampatti ont lieu aujourd'hui à la cathédrale St. Mary de Sydney. La famille de Madame Zampatti a demandé qu'au lieu d'offrir des fleurs, l'on fasse des dons à l'œuvre caritative pour femmes Sydney Women's Fund. Le gouvernement de la Nouvelle-Galles du Sud a déclaré que les funérailles d'État seraient retransmises en direct et que les membres du public sont également invités à y assister. Carla Zampatti, qui avait été présidente de la SBS pendant 10 ans, avait déclaré à SBS News en 2016 qu'elle, comme de nombreux migrants italiens, avait forgé un lien très fort avec l'Australie. Madame Zampatti est décédée à l'hôpital Saint-Vincent le 3 avril dernier à l'âge de 78 ans. Judy Farger a assisté aux funérailles et lui a rendu hommage avant le service.
I began working for Carla in 1989. So that is a long association, 32 years since I began working for her, and I have loved every minute of my time with Carla. I can't imagine life without her. Everybody aspires to work for Carla Zampatti. If you work for Carla Zampatti, you're working for the most amazing, iconic woman in fashion that could ever, ever have been put on this earth. She is one of a kind. She can never be replaced. She's irreplaceable.
Le cyclone tropical Saroja a été déclaré comme catastrophique pour les compagnies d'assurance. Les dommages dans les régions touchées de l'Australie occidentale devraient dépasser les 25 millions de dollars dans les prochains jours. Les équipes travaillent toujours pour restaurer l'électricité dans de nombreuses propriétés. Et les autorités estiment que les réparations pourraient prendre jusqu'à 2 ans. Et un coup d'œil météo à travers l'Australie ce jeudi 15 avril, Perth 24 degrés, Adélaïde 21, Melbourne 19, Hobart 15, Canberra 20, Wollongong 25, Sydney 27, Newcastle 26, Brisbane 28, Cairns 30 et Darwin 33 degrés. Un rappel des principaux titres, l'Association des médecins d'Australie déclare que regagner la confiance du public dans le programme de vaccination contre le Covid est une priorité. Et en France, lueur d'espoir sur le calendrier de réouverture du pays au moment où on approche la barre des 100 000 morts du Covid. Et enterrement d'État pour Carla Zampatti, l'icône de la mode australienne et ancienne présidente de la SPS.
Vous aimez le programme en français ? Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com/SBS French.
Journal des sports et on commence aujourd'hui eh bien avec du football et la Ligue des Champions. Les résultats sont tombés. Le Real de Madrid qui se qualifie pour les demi-finales après un match nul face à Liverpool 0-0 avec un Thibaut Courtois totalement impérial dans les buts du Real. Et avec leur victoire 3-1 au match aller, donc les hommes de Zinedine Zidane se qualifient et rejoindront Chelsea pour une place en finale de la Ligue des Champions. On fait le point d'ailleurs sur les résultats des derniers jours, notamment la très belle qualification du Paris Saint-Germain malgré une défaite 1-0 face au Bayern de Munich, les tenants du titre. Eh bien, les Parisiens sont qualifiés pour la demi-finale au bénéfice du but à l'extérieur. Explication de tous ces résultats avec Martin Guez pour RFI.
Sadio Mané ne marchera peut-être plus seul. Certes, éliminé, malgré beaucoup de mouvements et d'activités face au Real ce mercredi soir, l'ailier sénégalais est pour l'instant le seul lion de la tanière à avoir remporté la coupe aux grandes oreilles. C'était en 2019 avec les Reds, mais ils sont trois à désormais sortir les griffes pour rejoindre leur capitaine au palmarès. Idrissa Gueye, le milieu parisien impérial à l'aller comme au retour dans l'entrejeu face au Bayern, et son coéquipier du PSG Abdou Diallo, néo-international, qui s'impose de plus en plus dans la défense du club français. Leur compatriote, le gardien Edouard Mendy, croisera le fer et chauffera les gants face au Real dans l'autre demi-finale. Mendy, l'homme de base de la défense de Chelsea, qui enchaîne les clean sheets, des copies propres dans les cages, dans une équipe où un autre lion, le lion de l'Atlas Hakim Ziyech, a perdu de son mordant, le Marocain repoussé au fond du banc de touche par Thomas Tuchel, malgré deux prestations de très haut niveau en huitième de finale. Autre gaucher nord-africain, très doué de ses pieds, l'Algérien de Manchester City, Riyad Mahrez, prêt à défier le PSG en demi-finale. Le champion d'Afrique monte en puissance, passeur décisif en quart de finale aller contre Dortmund et auteur de son premier but dans la compétition cette saison, celui de la qualification sur penalty au match retour.
Voilà donc Martin Guez pour RFI Paris Saint-Germain. Le PSG affrontera donc Manchester City en demi-finale de la Ligue des Champions. On va parler de tennis maintenant. Quelques résultats de Monte Carlo. Tout d'abord, Rafael Nadal qui s'est défait de Delbonis l'Argentin sur le score de 6-1, 6-2. Novak Djokovic qui s'est lui-même défait de la fureur italienne, le tout nouveau protégé des Italiens. Sinner sur le score de 6-4, 6-2. Et une très belle victoire, celle de Lucas Pouille au courage contre Alexei Popperin, l'Australien, sur le score 7-5, 2-6, 6-3. Lucas Pouille qui fait un retour gagnant sur les terrains de terre battue à Monte Carlo, ce qui promet peut-être pour Roland Garros. D'ailleurs, Roland Garros, on en reparle tout de suite avec ces mots, ces propos de Daniil Medvedev, le plus francophone des Russes, des joueurs de tennis russes en tout cas. Daniil Medvedev n'aime pas la terre battue et il le fait savoir.
Non, moi, je le cache pas, j'aime pas le terre battue. Je fais, je vais pas aller en Amérique du Sud, même si j'aime bien voyager et vraiment envie d'aller là-bas une fois dans ma vie, mais je vais pas aller pendant les tournois de Rotterdam ou Marseille ou Dubaï, aller taper le terre battue en Amérique du Sud, par exemple. Mais c'est une surface où j'ai quand même, j'essaie, surtout avec ce qui se passait il y a 2 années, que je suis capable de bien jouer. Donc c'est le plus important, c'est que moi, chaque fois quand je travaille à l'entraînement, quand je vais sur le match, j'essaie de faire mon mieux, de gagner. C'est un peu plus dur pour moi sur terre, mais j'espère pour les bons résultats cette année, avec bon travail que j'ai fait. Après, terre battue, j'aime vraiment... Rien dans cette surface, parce que je ne comprends pas pourquoi les terrains, ils ont toujours les mauvais rebonds, t'es tout sale après avoir joué. Ça ne me fait pas plaisir de jouer sur terre, quoi.
Daniil Medvedev, allez, un mot de cyclisme pour conclure ce journal des sports. Et bien tout d'abord, la troisième victoire de Mark Cavendish, le Britannique, au Tour de Turquie. Lui qui n'avait pas gagné depuis 3 ans, il engrange les victoires comme un ogre, comme l'ogre des sprints qu'il est. Troisième victoire d'affilée dans ce Tour de Turquie. Et très belle victoire également de Thomas Pidcock qui s'est imposé devant Wout Van Aert et Matteo Trentin. C'est dans la Flèche Brabançonne. Très belle course de milieu de semaine. Une demi-classique donc gagnée par le Britannique de 21 ans. Voilà, c'est tout pour le sport pour aujourd'hui. On fait une courte pause et on se retrouve dans quelques instants pour le reste du programme. A tout de suite.
Les programmes de SBS sont disponibles en podcast et vous pouvez les écouter quand vous voulez. Pour s'inscrire ou télécharger, www.sbs.com.au/french.
Et
Et c'était Gaëtan Roussel et Alain Souchon dans Sans Sommeil sur les antennes de la radio SBS à 13h27min46s. Bien, dans cette édition, je vous rappelle qu'on va voir quelles options s'offrent à vous si jamais vous vous retrouvez en situation de séjour illégal en Australie. Comment éviter cette situation tout d'abord et que faire si jamais cela vous arrive pour éviter des conséquences comme l'expulsion du pays, la détention dans un centre de rétention pour illégaux ou l'inhabilité de pouvoir même demander un visa pendant une longue durée. Mais tout de suite, après la courte pause, on retrouve Nicolas Perpich pour décrypter l'actualité économique australienne en ce milieu de semaine.
Vous êtes avec SBS French.
Comme tous les jeudis, il est temps de décrypter l'économie australienne en ces milieux de semaine. Et j'ai en ligne Nicolas Perpich. Bonjour Nicolas.
Bonjour Bertrand.
Bien, cette semaine, on parle de l'association qui représente les médecins et qui dit que le gouvernement pourrait assez facilement économiser des milliards de dollars du budget si on changeait la façon dont on traite les personnes âgées.
Exactement, exactement. On sait très bien que la santé, les hôpitaux, etc., c'est une des choses, une des plus grandes et plus importantes parties du budget. C'est extrêmement cher. Et là, on vient d'avoir une Royal Commission en aged care. Il y a maintenant the Australian Medical Association qui représente les médecins autour de l'Australie qui disent qu'en fait 21 milliards de dollars pourraient être économisés en seulement 4 années si on réduit le nombre de gens âgés qu'on envoie à l'hôpital et aux urgences, quand en fait c'est pas vraiment nécessaire, qu'il y a d'autres moyens, et l'autre moyen c'est en fait leur permettre plus facilement de voir un médecin ou de voir une infirmière pour des maladies ou des situations ou des inquiétudes qui ne sont pas en fait vraiment des urgences, qui n'ont pas besoin d'être traitées dans un hôpital. Souvent ils sont envoyés là, et ça veut dire que ça coûte très cher à l'hôpital, ça veut dire qu'il y a un lit de moins ou un lit de plus qui est occupé à l'hôpital, qui bloque les choses et coûte beaucoup d'argent. Et en fait aussi, c'est assez, aller à l'hôpital, c'est pas rien, c'est ça peut être assez traumatique pour les gens. Donc si on peut traiter les gens chez eux ou dans une façon moins dramatique, c'est mieux aussi. Donc les Australian Medical Association, c'est le président, le docteur Omar Khorshid, qui a présenté cette idée-là, et lui, il dit que en fait, ce serait une économie financière énorme pour l'Australie. Sinon, ça va nous coûter encore à peu près 18 milliards de dollars si on continue comme on fait. Donc, il y a non seulement l'opportunité d'économiser beaucoup d'argent, mais de continuer à économiser cet argent pour les prochaines années. Donc, on n'a pas encore entendu la réponse du gouvernement, là, mais on a vu que le Australian Medical Association a dit que si on dépense plus d'argent pour permettre les gens âgés d'aller voir les médecins et les infirmières plus facilement, ça seulement, ça va économiser 887 millions de dollars. Et aussi, si on agisse sur une autre situation, c'est que souvent les gens âgés, ils attendent à l'hôpital pour être placé dans une maison de retraite. Et ça peut durer assez longtemps et ça peut coûter très cher. Donc, ils disent là qu'il faut trouver un système qui va accélérer ça. Donc, on attend la réponse du gouvernement, mais le ministre responsable, qui est Richard Colbeck, lui, il a dit que le gouvernement va officiellement répondre à la Royal Commission avant le 31 mai. Donc, on va voir à ce point-là ce qu'ils vont faire. Mais là, le docteur Khorshid, et il dit que c'est clair que le gouvernement a besoin d'investir pour avoir plus de médecins, plus d'infirmières et aussi de donner du soin continuel et souvent à la maison si on peut, non seulement dans les maisons de retraite. Donc que les médecins et les infirmières vont dans les maisons des gens. Ça va non seulement économiser, mais ça va être une façon plus humaine et moins stressante de donner du soin à des gens âgés.
En tout cas, un petit pactole à sauver si jamais toutes les instances se mettaient ensemble et discutaient des mesures concrètes à adopter. Et en ces milieux de semaine, on parle aussi de la réticence du conducteur australien à adopter la voiture électrique, du moins par rapport aux Européens, aux Américains.
Oui, exactement. Non seulement les conducteurs australiens, mais apparemment aussi le gouvernement. Donc on voit là maintenant que les voitures électriques ont pris 0,7% de toutes les nouvelles voitures vendues en Australie en 2020. Mais en Royaume-Uni et puis en Europe, c'était 10%, donc beaucoup, beaucoup plus. Et donc les producteurs de voitures, comme Volkswagen par exemple, ils disent que bon, l'Australie ne fait pas vraiment d'efforts et que vraiment il y a pas de subvention, il y a pas de programme par le gouvernement pour encourager vraiment non seulement les gens à acheter des voitures électriques, mais pour que les compagnies qui font des voitures électriques comme Volkswagen et d'autres puissent venir vendre leurs voitures ici. Ils disent qu'en fait, nous, on fait moins d'efforts ici que que nos voisins comme en Indonésie. Et en Indonésie, les gens, le gouvernement, fait beaucoup plus d'efforts. Et en fait, le Electric Vehicle Council de l'Australie qui dit qu'en fait, le marché australien est en fait hostile aux voitures électriques, ce qui est assez étonnant. Et il y a le président de cette association, Bayad Jafari, qui dit qu'en fait, les Australiens, ils adorent les voitures à pétrole, les voitures à diesel, les grandes 4x4. Et donc, c'est pas étonnant de voir que, en fait, 18% de toute la pollution en Australie vient du transport. Ça veut dire qu'en fait, on est un des pires pays pour ce genre de choses au monde. Il y avait en fait Volkswagen qui a dit récemment que le gouvernement fédéral, le gouvernement du Commonwealth ici en Australie, a l'air au mieux indifférent aux voitures électriques et au pire contre les voitures électriques. Donc ils sont assez étonnés, et ça veut dire qu'en fait ils n'essayent pas trop de vendre trop de voitures ou les meilleures voitures électriques ici, parce qu'ils voient que c'est vraiment trop difficile. Et ça se voit aussi que dans d'autres pays, on peut acheter des voitures électriques pour beaucoup moins qu'on peut les acheter ici. Ici, le moins qu'on va payer, c'est 50 000. Et ça, c'est pour un Nissan Leaf. Donc, c'est beaucoup plus cher que dans d'autres marchés, en Europe, en Chine, dans d'autres parties du monde. Donc, Volkswagen et les autres disent que bon, le gouvernement ici n'est pas très pro-voiture électrique, pas trop pro-changement climatique. Et c'est même un marché hostile. Donc c'est assez étonnant quand même d'entendre des commentaires comme ça, et aussi fortement critiques par une grande compagnie internationale comme Volkswagen.
En tout cas, on ne s'y attendait pas. Bien, Nicolas, merci infiniment de nous avoir décrypté l'actualité économique de australienne en ce milieu de semaine.
Merci beaucoup.
À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com/sbsfrench.
Je te veux comme te veux t'aimer.
C'était Un équilibre avec Carole Masport et Jean-Philippe Nataf. Après la pause, on va reparler immigration. Que faire si jamais vous vous retrouvez dans une situation de séjour illégal en Australie?
Vous êtes avec SBS French.
Que se passe-t-il si quelqu'un se trouve en Australie et que son visa a expiré? Les étrangers en situation irrégulière risquent d'être détenus et expulsés du pays. Mais que faire si vous vous retrouvez avec un visa expiré en Australie? Un charpentier italien de 25 ans, que nous appelons Giacomo dans cette rubrique, est arrivé en Australie avec un visa vacances-travail en 2018, puis a obtenu un visa étudiant. Plus tard, il a trouvé un employeur qui l'a parrainé pour un visa temporaire du programme mis en place pour adresser la pénurie de main-d'œuvre qualifiée. Et lorsqu'il a fait une demande de visa de type 482, il a reçu un visa transitoire de type A, mais les choses ne se sont pas déroulées comme prévu.
I applied for a sponsorship visa in 2019 November, but then I entered just in a bridging visa for the sponsorship. And in May, when the COVID arrived, I lost my job, so I didn't have any more sponsorship.
Le ministère de l'Intérieur a envoyé à Giacomo un avis indiquant qu'il avait 35 jours pour retirer sa demande du visa de type 482 et introduire une demande pour une autre catégorie de visa ou quitter le pays. Ensuite, avec l'aide d'un agent de migration, il a demandé un visa de visiteur, mais celui-ci lui a été refusé car cette demande a été introduite plus de 28 jours après l'expiration de son visa étudiant, qui était le dernier visa substantiel qu'il avait eu. Il a fait appel de cette décision. Selon Emmanuel Akanini, un agent de migration chez Migration World, la plupart des gens se trouvent en situation régulière en Australie. Cependant, elle dit qu'il lui arrive de recevoir des clients qui ont laissé leur visa expirer.
Usually most of the people who let their visa expire are mainly visitor visa holders, but also students. Some forget about the expiry date. Some don't care. Some don't clearly understand the system, while others do it deliberately to continue to stay in the territory and maybe work without permission. In my experience, there are also some with working holiday visa who don't quite understand when the second working holiday visa starts and consequently miss the visa end date.
Selon Mme Canini, il existe des croyances erronées répandues sur ce que signifie être en situation de séjour illégal.
The first is that being illegal is not a characteristic of asylum seekers, for example, especially those who arrive by boat. And the other widespread myth is that upon expiry of the visa, you have 28 days to leave Australia. It's not true. When the visa expires, it expires.
Les lois relatives aux visas sont décrites dans la loi de 1958 sur l'immigration et le règlement sur l'immigration de 1994.
By law, everyone must have a visa to enter and stay in Australia. All temporary visas have an expiry date. And during your stay, you must make sure to renew it before it expires or apply for a different visa if you satisfy the requirements. If this doesn't happen upon expiry of the visa, you become legal. The greatest risk of being illegal is that you may end up in detention and then removed from the country.
Selon le ministère de l'Intérieur, au 31 janvier 2021, 156 étrangers en situation irrégulière étaient en détention en attente d'expulsion du pays. Cependant, on estime qu'au total, des dizaines de milliers sont en situation irrégulière. L'agent de migration et avocat accrédité Alessia Comandini des services de migration Comandini explique qu'une personne qui constate que son visa est expiré peut organiser son départ du pays avec le ministère de l'Intérieur en demandant un visa transitoire de catégorie E qui lui permet d'être en situation régulière avant son départ.
We always advise our client when they realize that their visa is expired not to simply buy the ticket and go to the airport. But we always advise them to request a bridging visa E before leaving the country. With this bridging visa E, they will be granted a period of time to legally leave the country, and they will avoid any detrimental consequences like being detained at the airport.
Une personne qui a dépassé la durée de son visa de moins de 28 jours, elle a plus d'options.
A person may be able to apply to remain in Australia because of their relationship with another Australian citizen or permanent resident, which is obviously the partner visa applications. Or if a person has held a student visa and within the 28 days from the expiration date of their student visa, they apply for another student visa, they technically have a grace period, which will allow them to apply again for another student visa.
Les étudiants étrangers ne peuvent utiliser cette période de grâce qu'une seule fois dans leur vie. Et si une personne a dépassé la durée de son visa pendant plus de 28 jours sans régulariser sa situation, ses options deviennent très limitées. Dans certains cas, on peut être frappé d'une période d'exclusion de 3 ans pendant laquelle on n'a droit à aucun autre visa.
Si vous avez resté et resté en Australie légalement pour plus de 28 jours, any future application for an Australian visa will be subject to an exclusion period. That means that you will be unable to be granted a visa to travel to or to stay in Australia for a minimum of 3 years. This period will apply even if you have left Australia voluntarily.
La période d'exclusion de 3 ans commence le jour du départ d'Australie. Elle s'applique à ceux qui n'ont pas régularisé leur séjour dans les 28 jours suivant l'expiration de leur visa et ont quitté l'Australie en situation de séjour irrégulier et détenteurs d'un visa transitoire de catégorie C, D ou E. Alors, comment éviter de se retrouver dans cette situation? Bien, Madame Canini explique que la meilleure chose à faire est de prêter attention à la date d'expiration de son visa au moment de son obtention.
It is not actually difficult to avoid being without a visa. Obviously, there may be special circumstances such as an accident or a sudden event, but essentially you must be aware of the expiry date of your visa, first of all, and this is written on all the letters of approval of the visas, or you can check it on the Department of Home Affairs website by entering your data into the system. And in case you're not very familiar with the English language or with the system, you can still ask an immigration expert.
Dans certains cas, des personnes dont le visa a expiré peuvent introduire une demande de visa de protection ou demande d'asile. Ben Lumsdaine, qui est l'avocat principal superviseur au service conseil et gestion des dossiers pour les réfugiés, Refugee Advice and Casework Service, ou RACS en abrégé, explique qu'une partie du travail de son organisation consiste à aider les personnes qui craignent d'être persécutées dans leur pays d'origine.
The Refugee Advice and Casework Service works with people seeking asylum in Australia. We'll help them try to apply for protection visa if they've got a fear of being persecuted in their home country. So sometimes those people come to us while they have student visas, they might come to us while they have a visitor visa, but it could be any type of visa really. And if we think they should apply for a protection visa, we could help them with that. And if they're waiting for that protection visa application, if they're not meeting the conditions of their visa, so for student visas where it's like attending classes, then that visa might be cancelled and we'd assist them in that scenario.
Le RACS a récemment aidé certains étudiants vénézuéliens à introduire une demande de visa de protection en Australie. Une aide est disponible pour ceux qui n'ont pas les moyens de se faire représenter par un avocat. Pour plus d'informations à ce sujet, rendez-vous sur sbs.com.au/settlementguide.
Vous voulez entendre d'autres rubriques comme celle-ci? Écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où vous obtenez vos podcasts.
Appel des titres de l'actualité de ce jeudi, l'Association des médecins d'Australie déclare que regagner la confiance du public dans les programmes de vaccination contre le Covid est une priorité. En France, lueur d'espoir sur le calendrier de réouverture du pays au moment où on approche la barre des 100 000 morts de Covid. Et un enterrement d'État pour Carla Zampatti, l'icône de la mode australienne et ancienne présidente de la SPS. Ceci nous amène à la fin de cette édition. Merci de votre compagnie. Prochaine édition, c'est ce samedi entre 13 et 14 heures. Bon appétit si vous êtes toujours à table et à très bientôt.
Vous voulez entendre d'autres rubriques comme celle-ci? Écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où vous obtenez vos podcasts.